Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 6 octobre 2014. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, Anne.
Aux États-Unis, le Libérien Thomas Eric Duncan est maintenant dans un état extrêmement grave. Il est le premier cas d'Ebola diagnostiqué dans ce pays.
Au Niger, un deuil national de 3 jours décrété à la mémoire des soldats nigériens tués la semaine dernière dans le nord du Mali.
Et prière aussi au Mali pour ces soldats nigériens à l'occasion de l'Aïd al-Adha, la fête de la Tabaski.
En Somalie, les forces gouvernementales et de la MISOM reprennent Baraoué, le dernier grand port qui était encore aux mains des Shabab.
À Hong Kong, les fonctionnaires ont pu accéder à leur bureau ce matin, alors que les protestataires ont retiré certaines barrières à l'approche d'un ultimatum gouvernemental.
Au Brésil, il y aura un second tour d'Dilma Rousseff en ballottage à l'issue de la présidentielle d'hier.
Bébé Doc, Jean-Claude Duvalier, l'ex-dictateur haïtien n'est plus. Il a succombé samedi à une attaque cardiaque.
Et ne manquez pas la musique de Roger Muntou et les sports en fin d'émission. Pour l'instant, le journal. Ici aux États-Unis, où a été diagnostiqué le premier cas d'Ebola hors d'Afrique, l'inquiétude grandit malgré les efforts des autorités sanitaires pour rassurer le public. Idriss Fall.
Le docteur Tom Frieden, directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies, CDC, a dit hier avoir constaté une grande préoccupation dans le public, qui est compréhensible. Selon lui, avant le premier cas d'Ebola diagnostiqué au Texas, son organisme recevait 50 appels téléphoniques et courriels par jour et aujourd'hui en reçoit plus de 800 au quotidien. La peur est plus grande au Texas où les autorités ont eu du mal à reloger les 4 personnes mises en quarantaine initialement dans l'appartement où avaient vécu Thomas Eric Duncan, le seul malade de l'Ebola arrivé du Libéria. Son état est qualifié aujourd'hui de très grave. Depuis, plus d'une centaine de cas suspects ont été signalés, mais selon le docteur Frieden, aucun ne présente de symptômes. Samedi, un avion a été cloué sur le tarmac de Newark pendant 2 heures. Un passager avait vomi pendant le vol Bruxelles-New York. Et là encore, selon les services de santé, il s'agissait d'une fausse alerte.
Le Niger observe depuis hier un deuil national de 3 jours à la mémoire des 9 soldats tués vendredi dans le nord du Mali. Henri Francisque.
Selon l'AFP, les 9 soldats nigériens ont péri vendredi dans l'attaque la plus meurtrière contre les troupes de l'ONU au Mali depuis le déploiement de la MINUSMA en 2013. Selon un communiqué du gouvernement, 3 véhicules de l'armée nigérienne ont également été détruits à l'arme lourde lors d'une embuscade tendue par une trentaine d'hommes armés. L'armée malienne et la MINUSMA poursuivaient encore hier les recherches pour retrouver les auteurs de cette attaque attribuée au Mujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. La semaine dernière, l'ONU s'était inquiétée de la résurgence des djihadistes dans le nord du Mali, où depuis juillet 2013, une trentaine de casques bleus ont été tués, dont 10 Tchadiens, dans une série d'attaques le mois dernier.
Les soldats somaliens et ceux de la MISOM se sont emparés hier de Baraoué, le dernier grand port qui était encore sous le contrôle des islamistes du groupe Al-Shabaab. Les précisions d'Issia Kaba.
La chute de Baraoué est un coup sérieux porté au Shabab un mois après la mort de leur chef suprême, Ahmed Abdi Godane, tué début septembre lors d'une frappe américaine dans la province du Bachabel. Baraoué, à quelques 200 km au sud-est de Mogadiscio, était crucial pour le financement des islamistes somaliens. Il pouvait gagner jusqu'à 25 millions de dollars dans le commerce de charbon avec les pays du Golfe. L'opération dite Océan Indien, lancée fin août par les troupes de l'Union africaine et l'armée somalienne, a permis de reprendre une dizaine de localités dans le sud et le centre de la Somalie. Cependant, selon des spécialistes, les Shabab contrôlent toujours de vastes zones rurales et restent une menace importante pour la sécurité dans la région.
C'est aujourd'hui que doit s'ouvrir en Afrique du Sud le procès du millionnaire britannique Shriyan Dewani, accusé d'avoir ordonné le meurtre de sa femme pendant leur voyage de noces dans la ville du Cap en 2010, quelques jours seulement après leur mariage en Inde.
Dewani, qui est soupçonné d'avoir engagé un tueur à gages pour abattre son épouse, dément toute implication dans sa mort. Il a été extradé vers l'Afrique du Sud après une bataille judiciaire de 3 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Hong Kong, les fonctionnaires ont repris le travail aujourd'hui au siège du gouvernement, alors que semblent se calmer les protestations qui ont paralysé la ville pendant plus d'une semaine. Les manifestants ont permis aux travailleurs de passer sans incident à travers leurs barrières. Les protestataires, qui étaient au nombre de dizaines de milliers, n'étaient plus que des centaines pendant la nuit. Les autorités avaient donné jusqu'à lundi aux manifestants pour qu'ils dégagent les rues afin de permettre aux commerces, aux écoles et aux bureaux gouvernementaux de rouvrir.
Dimanche, les manifestants ont retiré certaines barrières qui bloquaient l'accès au siège du gouvernement situé au centre-ville et quitté le secteur. Mais les protestataires semblent divisés, certains s'étant jurés de rester sur place. Les leaders étudiants disent tenir des pourparlers avec les responsables gouvernementaux en vue de discussions formelles avec la secrétaire générale de l'administration, Carrie Lam, qui a été choisie par le chef de l'exécutif, Leung Chun-ying, pour entamer les discussions avec les étudiants.
Au Brésil, la présidente Dilma Rousseff est en ballottage. Elle a recueilli plus de voix que ses adversaires à l'élection présidentielle d'hier, mais pas assez pour la majorité absolue. Le second tour est prévu pour le 26 octobre.
Madame Rousseff a été créditée de 42% et le social-démocrate Aécio Neves de 34% environ. La présidente, qui appartient au Parti des travailleurs, jouit d'un grand soutien au sein de cette couche sociale grâce au programme de l'État-providence qu'elle a hérité de son prédécesseur et parrain politique Lula da Silva. L'avance dont jouissait dans les sondages l'ancienne ministre de l'Environnement Marina Silva en août dernier ne s'est pas matérialisée.
Le chef du FBI, James Comey, affirme que la Chine est à la tête des pays qui s'adonnent à la cyberattaque contre l'industrie américaine, ce qui coûte des milliards de dollars par an. M. Comey a déclaré hier dans une interview à la chaîne de télévision CBS que Pékin est extrêmement agressif dans ses efforts pour voler des secrets qui profiteraient à ses entreprises et à son industrie.
Selon le patron de la police fédérale américaine, le nombre d'attaques quotidiennes liées au piratage et au cyberterrorisme est tellement élevé qu'il est difficile à déterminer. Les Américains, ajouté M. Comey, sous-estiment le danger de la cybercriminalité. Pour rappel, les États-Unis ont inculpé en mai dernier 5 experts militaires chinois pour vol et rendu furieuse la Chine qui a démenti pratiquer le piratage tout en accusant les États-Unis de faire de l'espionnage industriel.
Enfin, le décès samedi de l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier à l'âge de 63 ans a laissé les Haïtiens dans une apparente indifférence. Des détails avec Henri Francisque.
Hier dimanche, au lendemain de sa mort, aucun rassemblement n'était organisé dans les rues de Port-au-Prince, où l'ancien président à vie est décédé suite à un malaise cardiaque. Pas de foule, ni des larmes pour celui qui a régné d'une main de fer pendant 15 ans sur Haïti. Aucune date n'est encore fixée pour ses funérailles. Le président Michel Martelly a salué le départ d'un authentique fils d'Haïti. Bébé Doc avait succédé à son père François Duvalier à l'âge de 19 ans. Il était accusé de torture et de nombreuses exécutions extrajudiciaires et était visé par une enquête de la justice haïtienne pour crimes contre l'humanité et détournement de fonds publics. Plusieurs associations de défense des droits de l'homme ont rappelé que sa mort n'empêche nullement le maintien des poursuites engagées contre lui et son régime.
Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson. Washington, la voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, les réfugiés et demandeurs d'asile à Goma, capitale du Nord Kivu, se plaignent de la lenteur que le gouvernement congolais met dans le traitement de leurs dossiers. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, aurait même arrêté son assistance humanitaire en attendant qu'il soit en règle avec le gouvernement de Kinshasa. De Goma, notre correspondant Primo Pascal Rodahigua.
Ils sont en majorité des Burundais et quelques Rwandais qui s'inquiètent du fait que le HCR a arrêté l'assistance humanitaire en leur faveur. Ndaïssa Bassadi, qui est le président de ces réfugiés et demandeurs d'asile qui vivent à Goma.
Les appuis qui ont été coupés sont l'éducation, les soins médicaux. Cela est dit au manque de statut de réfugié. Le problème se situe au niveau du gouvernement congolais qui retarde le processus de détention des statuts de réfugié.
L'appui du HCR que recevaient ces demandeurs d'asile n'était qu'une faveur, interrompue suite aux contraintes budgétaires. C'était une assistance provisoire en attendant l'aboutissement de leur dossier.
Le HCR, lui, appuie le réfugié. Et il appuie le demandeur d'asile dans la durée de 3 à 6 mois. Au-delà de 6 mois, le HCR a le droit de couper son assistance. Il suppose que le gouvernement aurait déjà accordé le statut de réfugié.
Interrogé à ce propos, Laïngou Lianjewa, coordonnateur et chef d'antenne de la Commission nationale pour les réfugiés au Nord Kivu, appelle les demandeurs d'asile à la patience. Un plaidoyer serait en cours pour décanter cette irrégularité.
Ce qui concerne les demandeurs d'asile à la ville de Goma, nous avons mis toutes les batteries en marche pour que leur statut sorte. À notre niveau, à la province, nous constituons leurs dossiers que nous envoyons à Kinshasa. Des dossiers que nous avons envoyés, il y en a qui ont eu le statut de réfugié. Il y en a dont les dossiers ont été rejetés, mais le rejet du dossier est toujours suivi d'un droit au recours. Pour le recours, il faut qu'ils aillent à la Commission nationale d'éligibilité. Mais comme ils n'ont pas les moyens, nous avons déjà fait un plaidoyer au niveau de Kinshasa pour que la Commission de recours fasse un travail à foraine ici au niveau de la province.
Combien de temps le processus d'acquisition du statut de réfugié va-t-il prendre? Rien n'a été révélé à ce sujet. Goma, Primo Pascal Rudahigua pour La Voix de l'Amérique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
1% de l'argent de l'or pour sortir les communautés de la pauvreté. C'est le nom de la campagne lancée au Burkina Faso par la coalition Mine Alerte, organisation de la société civile à l'endroit des députés burkinabés qui vont voter la loi sur le nouveau code minier du Burkina. Dans ce projet de loi, l'État prévoit la création d'un fonds de développement local. Il y met 15% de ses recettes. Quant aux sociétés minières, il leur est donc demandé de donner 1% de leur chiffre d'affaires annuel. Elle propose, elle, 0,5%, soit la moitié. Cette campagne vise ainsi à faire pression sur les députés afin qu'ils suivent l'État et non les industries extractives d'or. Pardon. Reportage de notre correspondant Ouagadougou Zoumana Wonogo.
Il y a quelques années de cela, la coalition Mine Alerte Burkina lançait la campagne « Où est mon or ?» publiez ce que vous payez. Cela a abouti au rapport ITIE, Initiative de transparence dans les industries extractives. Et revoilà la coalition lançant encore une autre campagne, intitulée cette fois-ci « 1% de l'argent de l'or pour sortir les communautés de la pauvreté ». Écoutons les explications de Jonas Yen, il est le président de la coalition.
Il ne suffit pas de savoir ce qu'on gagne. Il est important aussi de savoir comment on dépense ce qu'on gagne. C'est dans ce sens que dans la relecture du code minier burkinabé, le gouvernement a prévu créer un fonds qu'on a appelé fonds de développement local. Dans le cadre de l'alimentation de ce fonds, l'État a sa part de contribution et aussi a demandé une part des sociétés minières à raison de 1% de leur chiffre d'affaires annuel. Alors, les sociétés minières n'ont pas accepté le pourcentage demandé, mais propose plutôt 0,5%, qui à notre sens ne signifie pas grand-chose, donc nous avons lancé une autre campagne pour dire oui, nous sommes d'accord avec ce que l'État a proposé et nous attirons l'attention des sociétés minières par rapport à ce qu'elles gagnent et par rapport aux problèmes que vivent les communautés et surtout notre campagne est orientée vers les députés à qui le projet de loi va être soumis bientôt et comme c'est eux qui ont le dernier mot, nous leur disons, attention, vous avez des populations qui vous ont envoyé à l'Assemblée. Aujourd'hui, ces populations-là connaissent un problème de développement. Elles vivent des situations difficiles du fait des opérations minières. Maintenant, on leur demande de contribuer. Elles trouvent que c'est trop. Nous pensons au contraire que c'est le minimum qu'on puisse leur demander. Et comme c'est vous, député, qui avez le dernier mot par rapport à ce nouveau code minier qui va venir, on attire votre attention pour que vous puissiez voter ce code minier en tenant compte de 1% que l'État avait proposé en lieu et place de 0,5% que les sociétés minières proposent.
Quelle chance de succès a cette campagne face à la puissance financière des sociétés d'exploitation minière et aussi les possibilités de corruption qu'on connaît sous nos tropiques. Voici ce qu'en dit le président Jonas Yen.
Nous avons confiance et nous faisons confiance aussi à nos députés. Et nous aimons à dire, si vous votez une loi aujourd'hui qui va vous servir de corde au cou dangereux pour demain, c'est à vous de faire le choix. En tout cas, nous leur faisons confiance pour que ce code minier-là soit adopté avec le pourcentage demandé par l'État, puisqu'il est dit que l'or appartient à tous les Burkinabés. Si l'or appartient au peuple burkinabé, il n'y a pas de raison que ça brille pour une partie de ce même peuple et que ça noircisse une autre partie du peuple. Si l'or doit briller, que ça brille pour tous les Burkinabés.
Zoumana Onogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Paix, réconciliation nationale, stabilité, tels sont les différents thèmes qui ont dominé les sermons des imams lors de la fête de la Tabaski hier au Mali, comme dans plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest, célébrés donc dans ce pays, comme dans plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest. Parallèlement à l'Eid al-Kébir, qui commémore le sacrifice d'Abraham, les Maliens préparent aussi la rentrée scolaire 2014-2015. Une rentrée prévue ce mardi 7 octobre 2014, nous dit notre correspondant Kassim Traoré.
Le président de la République a participé à la prière de Tabaski au niveau de la grande mosquée de Bamako. Ibrahim Boubacar Keïta en a profité pour lancer un appel à l'union autour du Mali.
En ce temps où le monde prend conscience de la force du rassemblement, ce n'est sûrement pas le temps de nous diviser, de nous émietter. Quand on voit que les États-Unis d'Amérique se sont liés au Mexique et au Canada dans l'ALENA, l'Alliance de libre-échange nord-américain, c'est dire que l'union fait la force. On a toujours dit, dans le cadre des pays africains, singulièrement le Mali, c'est encore plus fort et plus vrai. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour que ce qui est en cours en Alger prospère. Au seul bénéfice du Mali, de la paix, la concorde dans ce pays et de sa prospérité future.
La ville de Tombouctou n'est pas restée en marge de cette activité. Elle a organisé une grande prière sur la place publique dirigée par l'imam de la grande mosquée de Tombouctou, Abdrahman Ben Essaouti.
Nous invitons les gens à la retenue et à la tolérance. La situation qu'on a traversée, ce n'est pas d'un coup de baptême magique qu'on pourra évidemment résoudre tous les problèmes. Je suis très optimiste par rapport en tout cas à une meilleure situation de cette situation qui prévaut chez nous.
À côté de la fête de Tabaski, les parents d'élèves préparent la rentrée scolaire prévue pour ce mardi 7 octobre au Mali. Pour le moment, il n'y a pas d'affluence du côté des vendeurs de fournitures scolaires.
S'il faut acheter les fournitures scolaires et les nécessaires pour la fête, cela n'est pas facile. Si les autorités pouvaient repousser la date de la rentrée scolaire, cela nous ferait énormément plaisir. Les parents d'élèves sont obligés d'acheter les fournitures scolaire. Je suis sûr que nous allons écouler nos marchandises. Pour le moment, il n'y a pas de clients. Fête de Tabaski et rentrée scolaire au même moment jouent énormément sur notre chiffre d'affaires.
Certains parents ont préféré acheter les fournitures scolaires, n'ayant pas de moyens pour acheter les moutons.
On est obligé de prioriser. Le plus important pour moi, c'est d'acheter les fournitures scolaires pour les enfants.
En tout cas, la rentrée scolaire ne se fera pas de façon effective à partir de ce mardi, car il y a beaucoup de réglages à faire au niveau du ministère de l'Éducation nationale, Bamako. Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
À Gao, la fête s'est déroulée dans le calme et dans un contexte particulier, sous l'œil vigilant des forces de sécurité. Les 9 soldats des casques bleus du contingent nigérien tués dans la région à Neliman, entre la ville de Menaka et Ansongo, ont été au centre des prières de cette fête musulmane, nous dit notre correspondant sur place, Boubacar Touré.
Tôt ce dimanche matin, les musulmans ont pris d'assaut la place Jikenchor pour la prière de l'Aïd El-Kébir. Parmi ce beau monde figure Abdoulaye Abdi, un déplacé qui a signé son retour.
Moi et ma famille, on a trouvé les gens vraiment disponibles. La vie reprend. Elle n'est pas jusque-là parfaite, mais l'espoir est là. Le grand monde que je vois me donne vraiment espoir que ça va beaucoup marcher. Le prix du mouton a coûté très cher. Bon, les autorités n'ont pas pensé à ça jusqu'à aider les population, les gens se font de bons souhaits, des bénédictions. Tous les souhaits sont liés à la santé et à la paix.
Le maire de la commune urbaine de Gao, Sadou Harna Diallo, a saisi cette occasion pour adresser au gouvernement du Niger et au peuple nigérien toute sa compassion.
Je m'incline devant la mémoire de nos frères nigériens qui ont perdu leur vie pour une cause noble. Je présente toutes mes condoléances au nom de toute ma population. Avant de dire quoi que ce soit, et que Dieu veille sur leur âme, Dieu veille sur leur famille qu'ils ont laissée. Toute ma compassion pour le gouvernement nigérien. Que la terre leur soit légère. Amen. Nous, en tant qu'élus, nous témoignons de tout l'effort que fait les pays voisins de l'Afrique, de l'Occident. Le monde entier souffre pour le Mali. Que Dieu exauce le vœu de ces hommes-là.
Dans les mosquées et les places publiques où on a fait la prière, les musulmans ont eu une pensée pieuse aux soldats de la mission onusienne tombés sur le champ d'honneur au nom de la paix au Mali. Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Ici aux États-Unis, à moins d'un mois des élections de mi-mandat, les républicains sont convaincus qu'ils vont pouvoir contrôler le Sénat et la Chambre des représentants. Les résultats de quelques circonscriptions détermineront quel parti sera majoritaire dans les deux chambres, ce qui aura un impact significatif sur les deux dernières années du président Obama à la Maison-Blanche. Les précisions de Michel Joseph.
Les Américains iront aux urnes le 4 novembre pour renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et le tiers du Sénat. La faible cote de popularité du président Obama, combinée aux inquiétudes des Américains au sujet de l'économie nationale, prépare le terrain à une vigoureuse prestation des républicains aux élections de novembre. Dans l'espoir de s'en tirer, plusieurs sénateurs démocrates en difficulté dans leur circonscription ont pris leur distance vis-à-vis du président, relève l'analyste Charlie Cook. Sur quoi portent les élections de mi-mandat, en particulier celles du second mandat? Elles sont un référendum sur le président sortant. Je vais utiliser un terme technique ici, c'est un mauvais contexte politique pour les démocrates. Deux ans après la réélection du président Barack Obama, les spécialistes s'accordent à reconnaître que les républicains ont l'avantage. Ils devraient, selon les prévisions, maintenir ou étendre leur majorité à la Chambre des représentants. La question qui demeure est de savoir s'ils pourront également effectuer une poussée en novembre pour gagner au moins 6 sièges au Sénat, ce qui leur permettrait d'arracher le contrôle de la Chambre haute. Il est trop tôt pour le dire, estime Tim Carlin Bowman de l'American Enterprise Institute. Je ne suis pas sûr que nous verrons une vague géante qui profiterait aux républicains. De toute évidence, ils arracheront quelques sièges au Sénat, mais il est prématuré de dire s'ils en auront assez pour en prendre le contrôle. Qu'à cela ne tienne, de plus en plus de spécialistes croient que l'opposition a plus que jamais des chances de reprendre le Sénat. John Fortier, du Centre bipartisan de politique de Washington, est du nombre.
Midterm elections tend to be a little bit more of a Republican election.
Les élections de mi-mandat ont tendance à être un peu plus républicaines. Les républicains sortent en plus grand nombre. Il y a moins d'afflux aux urnes que lors des présidentielles. Pour toutes ces raisons, je pense que le vent tournera en leur faveur. Le stratège républicain Neil Newhouse reste tout de même prudent. Côté démocrate, on relève quelques points positifs pour le président Obama en rapport avec sa décision de frapper les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie. Le moins qu'on puisse dire est que les empoignades entre républicains et démocrates se poursuivront jusqu'aux élections de novembre.
Tous les lundis soirs, La Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de La Voix de l'Amérique.
à présent la musique de Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Idrissa. Alors grâce au succès des derniers albums de Jay-Z, Kanye West, Beyoncé, il est devenu clair pour tout le monde qu'il était possible de vendre des palettes des disques en faisant le minimum syndical côté promo. Ce qui compte, ce sont les noms des collaborateurs et invités entassés dans un disque. Et cela fait bien longtemps que Rick Ross l'a compris. On l'écoute ici en featuring avec P. Diddy dans Magnificent. Remix.
I am the boss. Can you feel it? Nothing can save you. As we fly through the sky, so high. This is the remix. So magnificent.
Au lycée de Carroll City Senior High School, Rick Ross joue au football américain et obtient une bourse pour l'université d'État d'Albany en Géorgie.
Oui, Idrissa. Et il commence à rapper au milieu des années 1990 quand il forme le groupe Carroll City Cartel. Idrissa, il a reçu les reproches du public et du milieu rap sur sa vie fantasmée, sur l'univers mafieux qu'il décrit dans ses disques sans ne jamais l'avoir fréquenté.
Rick Ross featuring P. Daddy, Magnificent. Merci Roger.
De rien Idrissa, et j'en profite pour faire un coucou à nos amis de Ouagadougou et plus particulièrement à Djibril Diallo. Bonne journée Idrissa.
Roger Muntu que vous retrouvez chaque jour à 20h, temps universel.
Super dope, China White, Special Ed and Ricky Ross, the boss. See, we don't care what it costs, put it on the tab, put her in the cab. I'll be in the air, I'm a Twitter when I land, on South Beach, four-wheeler in the sand. Money so long, they don't really understand, funny how a song make another million. Still got it made and I ain't even gotta floss it, I never lost it, I'm so fortunate. I don't force it, it just comes, still getting cake while you birds get the crumbs. Top of the food chain, dropping this new game, hopping this new thing, that's how we do things. Yeah, so don't tell me, show me, it's Special Ed and Ricky Ross, the homie.
You know what it is, this is the remix, so magnificent. Yeah, Maybach music, and we won't stop. Hey yo, hey yo big boy, take us home.
I'm the magnificent with the style classified different. All the while, I just am. No swag is missing when you're like a fisherman. Got real pool to get him in. Gentlemen with light splash of pimping him. I am iceberg cold, leave him shivering. Cadillac on bowls, I control like the mic when I'm delivering. We going past ham, call me honey baked. Got money coming out the ass like my tummy aches. Wait, but it don't take cheese or cheddar together. Less you softer than a cashmere sweater. B.I.G. gon' make it wetter like two pussies together. You could never ever get on my level, why never ever. Even if you had feathers, you couldn't be as fly as I, the B.O.I. Sir Lucius left foot in disguise. In disguise, mile high, over your mouth wide now.
Yeah. So magnificent.
So magnificent, stop dreaming it.
As we fly through the sky, we so high. This is the remix. Can you feel it? Nothing can save you. Let's go. We the best. Come on. We the best. Come on. We the best. Feels so good up here, don't you agree? Feels good on top, baby. So magnificent. Don't stop.
Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.